Nous allons aujourd'hui continuer donc le message sur la première épître de Jean. Donc aujourd'hui, on lira le passage dans le chapitre 2, des versets 3 à 17. Ça offre une bonne coupure avant de changer complètement de thème, quoique, puisqu'ensuite il est question des antichrists, de l'antéchrist, etc. Je vous rappelle que le parti pris que j'ai pris pour les messages associés à cette première épître de Jean, c'est de voir cette première épître de Jean comme une catéchèse à l'adresse de nouveaux convertis. Et il me semble que lire la première épître de Jean ainsi me semble beaucoup plus naturel quand on voit les thèmes que Jean développe. Et en fait, si vous relisez également la première épître de Pierre, ce que j'ai fait ce matin, vous avez exactement le même type de construction, une lettre adressée à des jeunes convertis, que Pierre encourage à boire le lait de la parole pour grandir et croître. Et on a un petit peu la même chose dans la première épître de Jean. Donc je voulais rappeler ça. Et tout le début, le chapitre 1 en particulier, est un appel à la marche dans la lumière, qui est la condition de la croissance. Donc déjà, on a cette idée-là d'une marche dans la lumière comme une marche de croissance. Donc aujourd'hui, à nouveau, on va lire le chapitre 2, versets 3 à 17. Et plutôt que de vous le lire en une seule fois, je l'ai découpé en quatre morceaux, il me semble quatre unités thématiques, et je vais lire chacun des morceaux et donner un message en conséquence. Et on va faire comme ça pour la première, deuxième, troisième et quatrième fois. Alors je vous rappelle que la version que je lis est une traduction à partir de l'araméen, donc ça va dissonner un peu par rapport à vos propres traductions, mais ça va donner également l'occasion de certains petits commentaires qui, à mon sens, éclairent le texte. Donc d'abord, on va commencer par les versets 3 à 6. Donc chapitre 2, versets 3 à 6. Par ceci, nous percevons, ça veut dire nous sentons, nous devenons conscients que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Car celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements, celui-là est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. On verra juste après qu'est-ce que ça veut dire la vérité. Or celui qui garde sa parole, en celui-là est véritablement mené à terme l'amour de Dieu. Donc là, on voit la notion de maturation. Car c'est par ceci que nous connaissons que nous sommes en lui. Donc par cet amour qui arrive à terme, comme un enfant arrive à terme et naît. Celui qui dit « je suis en lui », il lui est nécessaire de marcher selon la marche qui fut la sienne, celle de Jésus. Donc vous voyez, ça doit changer un petit peu par rapport aux traductions dont vous avez l'habitude. Et je pense que dans ces quelques premiers versets, la première chose qui est mise en contraste, parce que Jean enseigne par mise en contraste les ténèbres, la lumière, ici c'est la vérité par rapport au mensonge. Donc il commence par nous dire que garder les commandements, garder la parole, c'est ainsi que l'on connaît Dieu, que l'on aime Dieu et que l'on marche avec Dieu. Et donc avant de définir ce que veut dire garder la parole, je vais faire un parallèle avec un autre passage dont je crois que j'ai déjà parlé il n'y a pas longtemps. C'est toujours le même Jean dans le chapitre 14 de son évangile. Celui, au verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et au verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc vous voyez que garder les commandements, garder la parole, ça n'a pas grand-chose à voir avec défendre sa théologie, être un gardien zélé de l'orthodoxie. pas grand-chose à voir avec ça. Garder la parole a fortement à voir avec l'expérience de l'amour de Jésus et pour Jésus. Et évidemment, en conséquence, pour les frères et sœurs. C'est ce qui sera dit juste après. Mais ça n'a pas grand-chose à voir avec les doctrines, les confessions de foi. Ça veut dire que toutes ces choses qui sont des productions humaines et qui ne font que diviser l'Église. Alors là, je vais faire une petite parenthèse qui va plaire à Toby. Puisque le week-end dernier, j'étais à Paris chez un frère qui m'a fait la publicité, mais dans le bon sens, d'un livre sur l'anabaptisme. Et donc c'est un livre, évidemment, je me suis empressé de commander. Il s'appelle « Radicalement chrétien ». Et dans ce livre, il est expliqué, entre autres, que les anabaptistes rejettent les confessions de foi. Parce que ce sont des productions humaines qui divisent par la connaissance et mettent l'accent sur la mise en pratique de la parole. Et donc les rassemblements sont là pour lire la parole et voir comment, de manière concrète, on peut la mettre en pratique. C'est un peu la perception que l'on a dans ce texte de Jean, quoique ce n'est pas le point central de ce qu'il dit. Et donc je vais le dire maintenant. Quand il est dit, celui qui dit je le connais et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Celui qui garde sa parole en celui-là est véritablement mené à terme. Vous avez vérité, véritablement. À chaque fois qu'il y a le mot vérité, en tout cas le mot araméen qui est derrière ça, c'est le mot qui est employé pour parler de l'esprit de vérité. Et peut-être vous en souvenez-vous, je vous avais dit que la vérité en araméen renvoie à quelque chose qui est ferme, qui est solide, comme le Seigneur qui est un roc sur lequel on peut s'appuyer. Donc quand on a le mot vérité qui apparaît ici, il faut penser immédiatement l'esprit de vérité, celui qui affermit notre cœur en Dieu. Et c'est la même racine qui est employée par l'apôtre Paul quand il parle « afin que vos cœurs soient affermis », etc. Dans cette notion d'être affermi, rendu ferme en Dieu. Et donc, quand Jean dit « la vérité n'est pas en lui », il est en train, en fait, de dire « l'esprit n'est pas en lui ». L'esprit de vérité n'est pas en lui. Donc, garder la parole, connaître et aimer Dieu, ce n'est pas garder la théologie, comme malheureusement souvent le font les églises. Chaque église est gardienne de sa propre orthodoxie et de sa bonne compréhension à l'aune de laquelle on juge les autres comme plus ou moins, hein, on se prend toujours le centre de tout. Non, là pas du tout. Garder la parole de Dieu, c'est la garder justement sans la couche de parole humaine qui en retranche l'esprit de Dieu. Rappelez, garder la parole, ne pas rajouter, ne pas retrancher. Ne pas rajouter la parole de l'homme, nos propres cogitations, afin de ne pas retrancher l'esprit, parce que l'esprit n'attestera jamais la parole de l'homme. Il n'atteste que la parole de Dieu. Et ce matin, avec Abdel, on parlait entre autres justement de la notion de l'esprit, et on se disait que l'esprit est bien la seule partie de Dieu qu'on ne peut surtout pas mettre en boîte. On aimerait tellement décortiquer toutes les étapes A, B, C de la vie spirituelle chez un croyant, depuis le moment où il entend la parole de Dieu jusqu'au moment où il meurt. Et on aimerait tous séquencer, rationaliser. Voilà, ben, c'est précisément quand on essaye de faire ça qu'on crée les divisions entre les églises. On est né nouveau à l'appel, parce qu'on est né plus tard. Et le baptême de l'esprit, c'est une deuxième expérience, c'est la même. C'est les apôtres avant la Pentecôte, ils étaient nés nouveaux ou ils ne l'étaient pas? Ils avaient reçu l'esprit ou pas? Jésus souffle sur eux pour qu'ils reçoivent l'esprit. Maintenant, ça veut dire qu'avant, ils ne l'avaient pas. Toutes les cogitations dans lesquelles on rentre, c'est comme ça qu'on divise. Donc, garder la parole, ce n'est pas vouloir décortiquer l'œuvre de l'esprit. C'est précisément ne pas le faire afin que la parole, l'esprit nous parle au travers de la parole et que du coup, notre regard soit gardé sur Jésus. C'est ça, garder la parole. Donc, c'est manger de l'arbre de la vie, comme le dit le premier chapitre de l'épître de Jean. et non pas manger de l'arbre de la connaissance qui divise entre le bien et le mal, le vrai, le faux, le blanc, le noir. Mais il nous dit également, dire que l'on connaît Dieu et ne pas garder ses commandements, au sens où je viens de le dire, une parole qui reste toujours fraîche, qui reste vivante et qui nous parle, qui nous picote quand il le faut, qui nous oriente quand il le faut. Ne pas garder ses commandements, c'est être un menteur. Et la vérité, donc l'esprit de vérité, n'est pas en lui. Et ça, c'est intéressant comme expression là encore, parce que, on le verra la prochaine fois, dans la suite, il est question de l'antéchrist. Mais évidemment, vous ne savez pas comment on dit l'antéchrist en araméen. En araméen, l'antéchrist, c'est le messie de mensonge. C'est le menteur. Ça renvoie au mensonge. Et être menteur au sens antéchristique, donc c'est un messie de mensonge. Or, le mot onction, c'est le même mot que le mot messie en araméen. D'ailleurs, c'est le mot chrétien. Hein. Le mot chrétien veut dire celui qui est oint. Donc, ne pas garder les commandements quand on se dit chrétien, c'est être antichrist. C'est avoir un nom chrétien oint de mensonge. Vous voyez le lien ? Donc, c'est une affaire sérieuse. Et en fait, ce que Jean est en train de nous dire dans cette première partie, c'est vraiment cette différence entre une profession de foi qui est juste sur les lèvres, par une adhésion à une confession de foi ou à une théologie, versus l'expérience par l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, qui nous centre sur Jésus et suscite en nous cet amour. Donc le contraste que Jean établit en tant que bon pédagogue à l'égard, comme je l'ai dit, des jeunes convertis qu'il veut amener à la croissance, c'est ce contraste qu'il y a entre un mensonge, c'est-à-dire une profession par la bouche, et la vérité, qui est une foi, une confiance qui vient du cœur. On peut professer de la bouche, mais ne pas vivre dans le cœur. On peut avoir la lettre, mais pas l'esprit. Donc ça, c'est la première partie du du message de Jean. Et le mot « garder » doit nous renvoyer immédiatement à quelque chose dans le livre de la Genèse. Au Genèse, au chapitre 2, au verset 15. « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden » pour le cultiver et pour le garder. Le garder de quoi ? Le garder de quoi ? Du serpent qui allait s'introduire dans le jardin d'Éden et qui a profité que Adam dormait ou avait la tête détournée pour s'adresser à Ève et commencer à introduire le mensonge. Adam devait garder, rester dans le jardin, non seulement pour le cultiver, pour avoir les bons fruits, mais également pour le garder. Il y avait un danger. Dans une création qui était pourtant très bonne, il y avait un danger. De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité de Jésus. C'est ce que Paul dit dans 2 Corinthiens 11. Donc on est confronté encore à ça aujourd'hui. Et tout ce que l'on rajoute à la parole de Dieu, avec nos cogitations, il est à craindre souvent que ce soit des psss qui nous parlent à l'oreille, parce que le serpent n'a qu'un seul but, c'est de désactiver la parole de Dieu pour que Dieu ne puisse plus nous travailler au travers d'elle. Que ça devienne une question de doctrine et de connaissance, et non pas une question d'expérience et de vie. Voilà, je n'en dirai pas plus sur ce premier point. Nous allons lire maintenant les versets 7 à 11. 1 Jean 2, 7 à 11. Mes bien-aimés, et le verbe aimer en araméen, ici c'est le mais aimer ardemment. Donc j'ai mis comme traduction mes bien-aimés que j'aime ardemment. 1 Jean 2, verset 7. Je ne vous écris pas un nouveau commandement, mais je vous écris un antique, un ancien commandement, celui que vous avez depuis le commencement. Or, le commandement ancien est la parole que vous avez écoutée. Encore, je vous écris un nouveau commandement, celui-là même qui est véritable. Ah, vérité, véritablement, véritable, on est en train de parler de l'esprit. Un commandement qui est véritable en lui et en vous, parce que les ténèbres sont passées, et la lumière véritable, encore une fois le mot, a commencé d'être vue. Celui donc qui dit qu'il est dans la lumière et qui hait son frère est dans les ténèbres jusqu'à maintenant. Donc il n'est pas encore parvenu à l'amour pour son prochain. Or celui-là qui aime ardemment son frère demeure et persiste dans la lumière. Et il n'y a pas en lui de scandale ni d'occasion de chute. Or celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Et il marche dans les ténèbres. Il ne connaît pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Donc à nouveau, j'ai alerté celui qui est véritable, le commandement qui est véritable en lui et en vous, ça veut dire, à nouveau avec ce que j'ai dit tout à l'heure du sens du mot vérité, ça veut dire qu'il est accompli par l'esprit en vous. C'est ça que ça veut dire. Vérité, véritable, etc. Vrai, immédiatement, il faut l'associer à l'Esprit de Dieu. Alors, cette fois-ci, dans ce passage-là, le contraste qui est établi, tout à l'heure, c'était la vérité et le mensonge. Ici, c'est l'ancien et le nouveau. Et il dit, je ne vais pas vous écrire un commandement nouveau. En fait, vous avez déjà reçu un commandement ancien. Et il dit pourtant... Mais c'est pas nouveau ce que je vais vous dire. Mais je vais vous le dire d'une autre manière. Alors, c'est quoi ce commandement ancien ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Quand il dit je ne vous écris pas un nouveau commandement, en fait, il est ancien. De quoi il parle ? Est-ce que quelqu'un a une idée ?
L'amour envers son frère et sa sœur.
Oui. Et en quoi serait-il ancien, cet amour pour le frère, pour la sœur ? Alors Corinne, je vais te demander de lire dans la première épître de Jean, 1 Jean, chapitre 3 suivant, les versets 11 et 12. Mais c'est pour aller dans ton sens, tu vas voir.
Car ce qui vous a été annoncé, ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn qui était du malin et qui tua son frère.
Voilà, et c'est en ce sens qu'il renvoie à l'ancien, il renvoie à la Genèse. Le commandement nous était donné dès le départ, et la première chose que Caïn a fait, c'est de tuer son frère, et donc de violer le commandement qui nous était donné dès le départ. Donc le contraste entre l'ancien et le nouveau nous fait penser bien évidemment au contraste entre la première alliance et la nouvelle alliance, ce qu'on appelle l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et donc si on parle de l'Ancien Testament, le commandement d'aimer son prochain est déjà là. Il est dans le Lévitique, il est dès la Genèse, il est déjà là. Mais quelle est la chose qui n'avait pas encore été donnée et qui fait qu'on va pouvoir passer de l'ancien au nouveau ? C'est quoi le basculement entre l'ancien et le nouveau ? Qu'est-ce qui va opérer le basculement ? Qui fait que c'est bien le même commandement que le commandement ancien ? Mais Jean nous dit, c'est un nouveau commandement maintenant que je vous adresse.
C'est Christ qui dit ça.
Comment ?
C'est Christ qui dit ça. C'est Christ qui dit ça.
Voilà, donc le Messie qui vient, Jésus.
Le plus important des commandements, c'est...
Tu aimeras Dieu, tu aimeras ton prochain. Mais quel est l'événement majeur qui va nous faire passer d'une alliance à l'autre ? Acte 2, la Pentecôte, la venue de l'Esprit. Donc, vous commencez, je pense, à faire le lien maintenant, c'est que chaque contraste, en fait, met d'une manière ou d'une autre en avant la dimension de l'esprit. Et le commandement a été donné dans l'ancienne alliance, l'amour pour le prochain, mais c'est avec la venue de l'esprit à la Pentecôte que ce commandement va devenir central. Donc, c'est pour ça que Jean dit, je ne vous donne pas un nouveau commandement, Mais pourtant, c'est un nouveau, mais qui va reprendre l'ancien avec l'esprit en plus, si je veux dire les choses un peu simplement. C'est également ce que l'on voit dans 2 Corinthiens 3 au verset 14. Sur l'ancienne alliance, nous dit Paul, il y a comme un voile qui est posé. On voit la lettre, mais on ne le vit pas, on ne le saisit pas. Parce que, nous dit Paul, le voile n'est levé qu'en Jésus. Donc il a annulé la venue de Jésus pour que toutes les paroles de l'ancienne alliance prennent tout leur sens spirituel. Et donc le nouveau commandement, c'est juste la lettre plus l'esprit. Et cette lettre est accomplie par ailleurs par l'amour. C'est un commandement, comme il est dit, qui est véritable en lui, véritable esprit de vérité, qui ne s'accomplit en nous que par l'esprit, pas par la lettre, pas par la connaissance. Et ce commandement est associé, donc, comme il est dit au verset 8, à la lumière véritable, à la lumière de la vie. Donc il a été question au premier chapitre. Donc, contraste entre l'ancien et le nouveau. Là encore, on peut vivre selon la lettre et exiger, par exemple, à 2,15, la circoncision des... Alors, j'avoue ne pas du tout aimer l'expression non-juif. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, quelle est la traduction que tu lis.
C'est l'humanisme.
D'accord. Alors, il faudra vérifier, mais voilà. C'est un petit détail, mais... Je ne me considère pas comme la négation d'eux. Voilà, c'est un ancien commandement, mais qui n'est accompli que par la relation avec Jésus. Donc on peut avoir la lettre, on peut avoir, comme les juifs non messianiques, là pour le coup, on peut le dire. Voilà, ils peuvent avoir la lettre, mais tant que la révélation de Jésus n'est pas faite, ça ne reste que lettre morte, ça reste un commandement ancien qui n'est pas véritable. C'est-à-dire qu'il n'est pas accompli par l'Esprit de Dieu. Donc le contraste entre l'ancien et le nouveau, on peut le voir entre le contraste entre la lettre et l'Esprit. Et donc là, à nouveau, Jean est en train de dire à ces jeunes convertis, c'est bien de... Voilà, ne vous farcissez pas la tête de théologie et de connaissance. Cherchez plutôt l'accomplissement et l'expérience de la parole par l'amour pour le prochain. Car celui qui aime ardemment... demeure dans la lumière, voilà. C'est ce deuxième contraste qui est établi. On arrive au troisième passage. Les versets 12 à 14. Je vous écris, enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, du fait que vous avez connu celui qui était dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, du fait que vous avez vaincu le malin. Et une deuxième fois maintenant, je vous écris, enfants, du fait que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, du fait que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes puissants, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Donc là, Jean semble dire deux fois la même chose. Alors je regarde rarement des commentaires, mais là j'ai quand même regardé un petit peu, pour voir comment était compris cette espèce de liste de trois, les enfants, les pères, les jeunes gens, et en plus, Jean le dit deux fois. Pourquoi est-ce qu'il insiste deux fois ? Alors là, c'est un grand débat. Certains disent, comme Jean, par ailleurs, dans son épître, s'adresse aux enfants, c'est que là, il ne s'agit que d'enfants. Et donc, ce sont des termes synonymes, enfants, pères et jeunes gens, c'est pareil. Je me gratte la tête quand je lis ça. Ça ne paraît pas tout à fait pareil. Donc, il n'y aurait qu'un seul groupe. D'autres disent, non, il y a en fait deux groupes. Il y a les enfants, constitués des jeunes gens et des pères. Dans la mesure où il distingue les enfants des pères des jeunes gens, non. Donc je vais en rester au sens tout simple de ce qu'il lit là, qui est lu là, c'est-à-dire on a trois catégories de personnes Et ça renvoie à nouveau à ce que j'avais dit tout à l'heure de la notion de catéchèse de l'évangile de Jean. Il y a les petits enfants qui viennent de recevoir la parole. Il y a les jeunes gens, on va le voir, qui sont déjà affermis dans la parole. Et il y a les pères qui représentent donc l'accomplissement de la parole. Il y a un exemple pour les jeunes gens et pour les enfants. Après, on peut se poser la question, mais pourquoi commence-t-il par les enfants, puis les pères, puis les jeunes gens? Ça aurait été bien quand même de dire les enfants, les jeunes gens et les pères. On voyait bien comme ça la croissance. Mais quand il dit, dans la deuxième série, « Je vous écris enfant du fait que vous avez connu le père. Je vous écris père parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. » Qui est dès le commencement? Qui est celui dont il est question quand il est dit? La parole, donc c'est le Fils. Tout à fait. Et ensuite, il dit « Je vous écris jeunes gens parce que vous êtes puissants. » Par qui? Par quoi? Et en fait, vous avez la déclinaison du Père, du Fils et de l'Esprit. La connaissance du Père par les enfants, la connaissance du Fils par les pères et la connaissance de l'Esprit par les jeunes gens. Donc, plutôt que de voir enfants, jeunes gens, pères, ce qui serait notre ordre logique, en fait, Jean oriente notre regard vers Dieu lui-même, le Père, le Fils et l'Esprit. Et d'autre part, comme Jean écrit partout dans son épître, comme il s'adresse aux enfants, hein, c'est l'argument pour dire qu'il n'y a que des enfants là-dedans, non, il s'adresse aux enfants partout ailleurs dans l'épître, à mon sens, à la lumière du passage que l'on vient de lire, ça me fait dire, non, il s'adresse bien à des jeunes convertis, des enfants. Il les appelle ensuite à devenir des jeunes gens. Et il leur montre ensuite l'exemple des pères. C'est une lettre, à mon sens, adressée à des jeunes convertis. Et donc là, on a le cheminement. Alors, pour les enfants, vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Voilà, c'est ce que l'on a lu dans le premier chapitre. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus nous pardonne de tout péché. Ça, c'est l'entrée dans la vie chrétienne, le pardon à cause du nom de Jésus. Et il est dit également de ses enfants, vous avez connu le Père. Ce qui me fait penser à Romains 5, ayant été justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, et Dieu déverse, donc Dieu le Père, déverse son amour en nous. Donc, avec le pardon du péché, vient la révélation de l'amour du Père. C'est pour ça que les enfants ont connu le Père. Ils ont connu en fait la dimension du pardon du Père et la dimension de l'amour du Père dans le pardon qui est manifesté par le don du Fils. Et donc tout ça, voilà, pour ce qui concerne les enfants, ça renvoie bien au premier chapitre de la première épître de Jean. Après, le deuxième stade, ce sont les jeunes gens. Vous avez vaincu le malin. Ah oui, mais comment? Mais il répète la deuxième fois. Vous êtes puissant, la parole de Dieu demeure en vous, et vous avez vaincu le malin. Autrement dit, les jeunes gens, ce sont ceux qui ont gardé la parole. Par expérience, parce que ça fait un bout de temps maintenant que je roule ma bosse, par expérience, alors, je vais essayer de le dire de manière charitable. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes dans leur vie chrétienne et c'est en relation avec la manière dont ils ont été enseignés au tout départ de leur vie chrétienne. On commet souvent l'erreur de croire que pour qu'un jeune chrétien grandisse dans la foi, il faut qu'il maîtrise les points cardinaux de la théologie chrétienne. Il faut qu'ils sachent ce que c'est que la Trinité, le Père, le Fils et l'Esprit, la double nature de Jésus, l'œuvre de la croix, etc. Et on pense qu'on le fait grandir ou la fait grandir en lui bourrant le crâne d'un certain nombre de points de théologie. C'est particulièrement vrai dans les accompagnements au baptême. Alors là, on veut s'assurer que la personne a bien compris tel point, tel point, tel point, tel point. Et on pense que c'est ça la croissance. Mais en faisant cela, du coup, ce n'est pas la parole de Dieu qui est gardée, c'est la tradition de l'Église que l'on veut transmettre. Et on s'étonne ensuite que les personnes ne deviennent pas puissantes dans la foi, et le mot puissant renvoie à la marche par l'esprit, à la vie de l'esprit, et on s'étonne qu'il n'y ait pas de victoire face aux malins, qu'il y ait une difficulté à résister, comme dit l'apôtre Pierre, aux malins. Et je pense que souvent le problème, il est dès le départ, il est lié au fait que la parole n'est pas gardée. Ce qui est gardé, en fait, c'est la tradition de l'Église, c'est la manière de voir de l'Église, et c'est ça dont on veut s'assurer, plutôt que de laisser la personne face à la parole de Dieu, et l'accompagner. L'accompagner, c'est-à-dire faire confiance à l'Esprit de Dieu, que si la personne a véritablement été appelée de Dieu, l'onction dont on a parlé tout à l'heure va lui parler. C'est ce que dit Jean, hein. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, on verra ça après, parce que vous avez reçu l'onction qui vous enseigne. Et donc le rôle de l'enseignant et de l'accompagnateur pour un jeune converti, c'est d'accompagner l'onction et de laisser l'esprit enseigner la personne au travers de la parole et entretenir cette vie de la parole, ces révélations qui vont venir au début, qui au départ vont être chaotiques. La personne aura lu tel verset, puis tel autre, puis tel autre, et puis ça part dans tous les sens. Et au bout d'un moment, en accompagnant ça, il y a le Seigneur qui émerge de la parole. Je vous parle d'expérience, hein. Je ne fais pas de la théorie là. Et on se rend compte que, en faisant comme ça, le fondement est posé qui va être très efficace pour la suite. Donc au lieu que d'essayer de transmettre sa propre manière de comprendre, c'est juste d'accompagner le jeune converti, l'accompagner dans sa lecture de la parole, éventuellement expliquer tel ou tel point de verset que lui ou elle aura lu, et non pas tout ce qu'on aimerait lui, tout ce dont on aimerait lui bourrer le crâne. Et on constate que l'œuvre est hyper efficace. Je suis toujours étonné quand je lis le livre des Actes, et je pense que c'est pareil pour vous, c'est de voir la rapidité avec laquelle les chrétiens s'engagent, passent par le baptême. On a l'impression que tout va très très vite. Et chez nous, ça prend des mois, voire parfois des années, et des années, et des années. Et quand je lis le livre des Actes, ça va très très vite. Et je pense que la raison essentielle, c'est parce que c'est l'œuvre de l'Esprit qui est choyée, qui est protégée, de telle manière à ne pas éteindre la flamme, et le laisser lui, l'Esprit de Dieu, garder, éclairer la parole, en gardant la parole. Donc voilà, garder la parole, on a l'impression tous qu'on garde la parole, il suffit d'avoir la Bible sous le bras. C'est vraiment beaucoup plus profond que ça. Et comme je l'ai dit, je pense que c'est un des problèmes fondamentaux dans nos églises d'aujourd'hui. Problème auquel Dieu remédie comment ? Ben, c'est ce qu'on appelle le réveil. Le réveil, c'est un retour à la parole de Dieu qui permet à l'Esprit de Dieu de se manifester à nouveau dans une église. On a parlé encore ce matin aussi des réveils. Cette différence qu'il y a entre la marche par l'esprit, la plénitude de l'esprit qui est de l'ordre de l'individuel, et le réveil qui est une œuvre collective de l'Esprit de Dieu qui descend sur un corps qui s'est préparé en revenant à la parole, en gardant la parole et en mettant le serpent dehors. Vous voyez ? Garder la parole. Et donc quand je vois le stade ici des jeunes gens, c'est ce que je lis dans ce passage. Après avoir connu le pardon des péchés, on mûrit, on grandit, en gardant la parole, en devenant puissant par l'esprit, et ce qui donne la victoire sur le malin. C'est-à-dire qu'on n'écoute plus les mensonges du malin qui vient susurrer aux oreilles. Et enfin, le troisième stade, c'est le stade des pères. Alors, vous avez connu celui qui était dès le commencement. Alors, très naïvement, je me serais dit, bah oui, les pères vont connaître le Père. Celui qui est au commencement de tout, le Père. Mais dans l'ensemble, d'abord dans l'évangile de Jean, et le début de la première épître de Jean, celui qui est dès le commencement, c'est le Fils. C'est pas le Père. Celui qui est devenu un homme, ce n'est pas le Père, c'est le Fils. Celui vers la stature duquel nous devons grandir, c'est le Fils. C'est pas le Père. Le Père, pour l'éternité, nous dépassera complètement. Et nous passerons l'éternité à découvrir qui est le Père. Mais celui à la stature duquel nous grandissons, celui qui est notre objectif, celui qui est notre but, celui qui est devenu homme, chair de notre chair et os de nos os, c'est le Fils. Et donc, ici, la maturité des pères dans l'Église, c'est d'être parvenu à la stature du Fils. Et l'Église a pour but, dans nos échanges, nos partages, de nous aider à grandir, comme le dit Paul dans Éphésiens, à la stature du Fils, et dans Colossiens aussi, la stature du Fils. C'est le Fils qui est notre visée. Et donc on devient père quand on devient comme le Fils. Et donc j'ai conclu ce petit passage en disant, du coup, les fils connaissent le Père et les pères connaissent le Fils. Les enfants, au départ, connaissent le Père, le pardon de Dieu, et les pères dans la foi connaissent le Fils. Car comme le dit Paul d'ailleurs, par ailleurs, alors je ne sais plus dans quel passage, nous avons la pensée du Fils, la pensée du Messie. Nous n'avons pas la pensée du Père. Ses voix ne sont pas nos voix, ses pensées ne sont pas nos pensées. Il y aura pour l'éternité un décalage avec le Père. Nous sommes enfants, nous sommes des créatures, le Père est infini. Et il a fallu que le Fils vienne à côté de nous pour nous faire découvrir petit à petit qui est le Père. Mais notre stature doit être celle du Fils. Enfin, le dernier passage, le quatrième passage, qui va être à tout nouveau une mise en contraste. Donc, ce sont les versets 15 à 17. Alors, juste une précision, vous aurez dans vos traductions souvent le mot « monde ». En araméen, le mot « monde », c'est le mot « alma », qui veut dire à la fois l'âge au sens du temps et au sens de l'espace. Je ne sais pas comment c'est en arabe.
L'univers.
L'univers, mais avec l'âge présent, l'âge futur. C'est pas simplement le monde, la terre. Donc, vous allez m'entendre parler au lieu du mot monde, l'âge présent. N'affectionnez pas l'âge présent, avec l'idée que ce monde-là passe. N'affectionnez pas l'âge présent, ni les choses qu'il y a en lui. Car celui qui affectionne l'âge présent, il n'y a pas l'amour ardent du Père en lui. Car toutes les choses qu'il y a en lui, c'est-à-dire dans l'âge présent, et convoitise, alors de la chair ou du corps, on va voir après, convoitise des yeux et vantardise mondaine. Dans vos traductions, vous avez l'orgueil de la vie. En araméen, c'est la vantardise du monde. Je vais commenter ça après. Et ces choses ne sont pas du Père, mais elles sont de l'âge présent, du siècle présent, le même mot, le siècle présent. Et l'âge présent passe. Sa convoitise aussi. Mais celui qui met en œuvre la volonté de Dieu demeure d'âge en âge. D'emblée, là, vous avez un très très fort parallèle avec la première épître de Pierre au chapitre 4, versets 1 et 2. Est-ce que quelqu'un veut bien le lire à haute voix ? 1 Pierre 4, versets 1 et 2. Ça fait partie des points de contact qui me font penser que, comme la première épître de Jean, la première épître de Pierre est une catéchèse pour les jeunes convertis.
Ainsi donc, puisque le Christ a souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon des désirs humains, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair.
Voilà. Et là, on a cette même opposition entre la convoitise de la chair d'un côté et la volonté de Dieu de l'autre. La convoitise de la chair empêche de faire la volonté de Dieu. Mais l'araméen apporte une nuance par rapport à ce qui vient d'être lu. Christ, le Messie ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée, car celui, et l'araméen dit, celui qui est mort dans son corps en a fini avec le péché, afin de vivre dans le temps qui lui reste à vivre dans son corps, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. Et il y a cette ambiguïté entre le mot chair et le mot corps. En grec, ça va être la chair. En araméen, c'est soit la chair, soit le corps. Les appétits du corps. Si j'en reste d'abord au terme de chair, dans la parole de Dieu, alors c'est pas la viande évidemment, il y a la chair des animaux, là on parle de la viande, mais l'autre sens du mot chair renvoie vraiment à la notion d'indépendance, d'autonomie. La convoitise de la chair, c'est ce que je convoite pour moi-même. Et elle est centrée sur le visible, le matériel, la possession des biens, des richesses, l'égoïsme. Et dès qu'on est en quête de possession, il y a automatiquement les rapports de domination qui s'installent, l'individualisme, etc. La chair, elle est profondément rebelle à Dieu. Et là, le contraste qui est mis, évidemment, par rapport à la chair, c'est le contraste avec la vie de l'esprit. Un esprit qui est d'essence relationnelle, l'abnégation de soi, le souci de l'autre, l'amour du prochain. Donc la chair est à l'opposé de ça. C'est l'église de Laodicée qui dit « je ». Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et si on restreint au mot « corps », la convoitise du corps, là, ça renvoie à tous les appétits du corps. Alors évidemment, on pense à la débauche, mais c'est tous les excès de manière générale. Et c'est ce que dit l'apôtre Paul. Les excès de nourriture, les excès de boisson, tout ce que l'on injecte dans le corps, ça peut être de la drogue, ça peut être toutes ces choses-là, qui sont des excès liés à la convoitise du corps. Et c'est pour ça que Paul dit par ailleurs, dans 1 Corinthiens 9, qu'il traite durement et maintient son corps en bride. Petite parenthèse, c'est dans ce cadre-là que la pratique du jeûne est intéressante. Parce que le jeûne est aussi une manière d'apprendre à brider son corps et de maîtriser son corps. De renoncer pendant un jour, deux jours, trois jours à de la nourriture pour apprendre à brider son corps, à brider les appétits du corps. Alors, je ne vais pas faire une petite leçon sur le jeûne ce matin, hein. Mais c'est pour faire le lien avec cette double interprétation de la convoitise de la chair ou du corps. Donc c'est Paul dans Galates 5, je pense, il va parler de la gloutonnerie, les excès de table. Voilà, tout ça renvoie à la convoitise du corps. La deuxième chose qui est dans le monde, dans l'âge présent, c'est la convoitise des yeux. Quand je lis la convoitise des yeux, je pense immédiatement à l'image, à l'idolâtrie, à la confusion entre le visible et l'invisible, entre le spirituel et le matériel. 2 Corinthiens 4, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, ça va bien dans le sens de ce texte, et les invisibles sont éternelles. Quand on pense à la convoitise des yeux et que l'on revient au commencement, ça vous rappelle quoi comme histoire? On revient tout au commencement.
La pomme, le fruit.
Beau à voir.
Comment?
Le fruit, la pomme, non?
Alors, c'était pas une pomme. Hein.
Oui, enfin, une pomme, c'est pas le fruit.
Le fruit qui était beau à voir.
Le fruit,
voilà. Voilà, autrement dit, l'épisode de la tentation.
Voilà.
La tentation est étonnamment très marqué par la question du regard. Dans Genèse 2:9, l'Éternel avait fait pousser toutes sortes d'arbres de toute espèce agréables à voir. Bon, c'est pas un problème que ce soit beau, hein, et bon à manger. Et dans le récit de la tentation, quand le serpent, donc je ne vais pas lire toute l'histoire, ça prendrait du temps, donc il commence à mentir. Dieu a-t-il réellement dit ? Voilà, il prêche un mensonge, il prêche le faux pour tâcher d'avoir, non pas le vrai, mais un vrai tordu. Mais ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe ensuite en Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, je ne sais pas comment elle a fait pour voir ça. Elle prit de son fruit en mangeant, en donna à son mari qui en mangea, et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et qu'elle a la première chose qu'ils ont vue.
Qu'ils étaient nus.
Ils ont pris conscience d'eux-mêmes. Avant la chute, ils n'étaient pas conscients d'eux-mêmes. Et ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que... Ça, c'est quelque chose que j'ai réalisé ces derniers temps, après un entretien avec un frère. La vue est pour Dieu. Dieu nous a donné un sens de la vue pour pouvoir contempler sa gloire. Ce qui fait que dans le jardin d'Éden, avant la chute, l'Éternel apparaissait tous les jours à Adam et Ève, et ils étaient captivés, subjugués. Ce qui fait qu'ils pouvaient apprécier la beauté des arbres, la beauté des fruits, ils pouvaient apprécier la beauté du corps de l'un et de l'autre, mais sans convoitise, parce que leur regard était d'abord sur la beauté, la gloire de Dieu, à côté de laquelle ça tuait toute convoitise pour toute chose. Reconnaître que c'est beau, mais ne pas le convoiter face à la gloire de Dieu. Et quand Adam et Ève ont désobéi, quand ils ont perdu l'esprit, la communion avec Dieu, la gloire de Dieu s'est effacée, et ce regard qui était fait pour contempler la beauté de Dieu a commencé à se tourner vers la créature. Et là, la convoitise qui est entrée en Ève, le serpent a réussi à détourner le regard d'Ève de Dieu. Et comment il l'a fait ? Il a instillé en Ève le doute à l'égard du caractère de Dieu. Attends, Dieu veut vous cacher quelque chose. S'il vous a interdit cet arbre, c'est qu'il veut vous cacher. Mais il sait très bien que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Il vous cache quelque chose. Il vous veut. Vous voyez bien qu'il ne veut pas votre bien. Le serpent a détourné un instant le regard intérieur de la bonté et de l'amour de Dieu et a instillé en Ève le doute à l'égard du caractère de Dieu. Et là, Ève, elle a cédé. Et la première chose qu'elle a vue, c'est intéressant de voir. Donc vous voyez que cette convoitise des yeux est un problème. Alors en particulier, ça l'est pour les hommes. Les hommes sont très visuels. Donc c'est vraiment un combat qui est spécifique. Et le remède, à mon sens, que nous donne la parole, c'est de revenir en fait au schéma de la Genèse. Quelle est la perception que nous avons de Dieu ? Quelle est la perception que nous avons de Jésus en tant qu'image visible du Père invisible ? Est-ce que nous cultivons cette pratique de... Alors, je ne parle pas de visualisation, hein, mais de contemplation de la gloire de Dieu, en particulier dans la prière, de telle manière à relativiser toute autre forme de beauté qui attire notre regard. Donc, ce n'est pas supprimer la perception de ce qui est beau, c'est de le relativiser par rapport à celui qui est glorieux. Et enfin, le troisième point, donc vous avez souvent dans les Bibles l'orgueil de la vie, et en grec c'est le mot vie, bios, qui est employé, là où l'araméen a la vantardise mondaine. Donc autant les yeux, j'essaie de regarder quelque chose pour me l'approprier, Autant dans la Vatavantar disent « Je me donne à voir aux autres ». C'est la vantardise, la vanité, puisque le mot « vantardise », vante, ça vient du français « vanter », qu'on n'emploie plus, et le « vanter », ça vient de « vanitare », latin, donc c'est la vanité. Donc la vantardise et la vanité, c'est exactement la même chose. C'est l'apparence, l'image qu'on donne aux autres. Donc c'est de l'intérieur l'orgueil, et on donne une image à l'extérieur, c'est la vantardise. C'est l'affichage. L'affichage des biens matériels, l'affichage de sa connaissance, l'affichage de tout un tas de choses, la vantardise du monde. Donc, la convoitise de la chair ou du corps, la convoitise des yeux et la vantardise. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui est un monde vantard. Hein, il s'agit de paraître. Et le jeu des réseaux sociaux et des médias amène les gens à créer des faux personnages qui sont des personnages qu'on projette pour les autres alors qu'on a à l'intérieur une vie misérable. Et c'est exactement ce que Jésus dit à Laodicée, là encore une fois. Laodicée dit « Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. » Et Jésus lui dit « Mais tu ne sais pas que tu es misérable, pauvre, aveugle et nu. » C'est ça la vantardise. C'est l'écart qu'il y a entre l'image qu'on donne à l'extérieur et la réalité à l'intérieur. Voilà, le temps approche, donc je vais conclure. Donc on a balayé chacun des quatre points et on a vu des mises en contraste entre un commandement et l'amour accomplissant ce commandement, entre la vérité et le mensonge, entre l'ancien qui est donné dès la Genèse et le nouveau qui se réalise par la venue de l'Esprit. Et enfin, entre le monde avec ses convoitises d'un côté et la volonté du Père, l'accomplissement de la volonté du Père, donc l'entrée dans une marche d'obéissance de l'autre. Et donc avec ces mises en contraste, je pense que Jean, à nouveau, essaye de montrer et de tracer un chemin pour les jeunes convertis en leur montrant, ne restez pas dans la lettre, mais cherchez l'accomplissement par l'amour pour le prochain. Gardez la parole, faites attention, le serpent rôde, il va vous mettre toutes sortes de choses dans la tête, et gardez-vous du monde, parce que ça a l'air bien, ça a l'air beau, ça a l'air clinquant, mais ce n'est qu'une illusion. Ce qui ne demeurera pour l'éternité, c'est l'accomplissement de la volonté du Père. Donc ce sont les avertissements que Jean donne à ces jeunes convertis dont il a la charge, et donc à nous aussi. Donc veillons à ces choses, et tout particulièrement, j'insiste vraiment là-dessus, le fait de garder la parole. Je crois que nous comprenons mal ce que veut dire en fait le fait de garder la parole, et que bien des problèmes surgissent dans nos vies chrétiennes et dans nos églises à cause de ça. Voilà. Je pense que là j'ai fait le tour de ce que je voulais dire ce matin.